Moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez
les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on discute quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions. Avec tout ça
Bien écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes des entonnoirs, émission numéro 242. J'ai le grand plaisir d'animer l'émission en compagnie de Blandine qui va proposer le sommaire.
Oui, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer l'émission par une interview de monsieur Nicolas Clauss. Bonjour.
Bonjour.
On continuera par la spirale de Jérôme et François qui nous laisseront la surprise de leurs choix musicaux. Les poèmes de Margot et de Bruno.
Oui, juste avant mon poème, j'aurais, comment dire, un point de vue assez particulier, j'espère très drôle et pertinent sur le monde des fantasmes et de ce qui trouble nos esprits, quoi.
Très bien, nous vous laisserons la parole. Ensuite, la chronique de Florent, qui sera différente cette fois-ci, qui est une chronique BD.
C'est une première, oui. Une BD humoristique, voilà. Hein. C'est une première.
C'est une première, donc on a hâte de t'écouter, Florent. Ensuite, une musique de Margot, que Margot va nous proposer. Il me semble que c'est Shakira.
Oui, qui chante une reprise de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir.
Voilà, très bien. À tout à l'heure. Et puis un coup de gueule et un coup de pouce de Francis. Et puis nous terminerons par une musique. Voilà, on va tout de suite démarrer l'émission.
Nous attendons dans l'émission Roger Lucien qui a du retard, pris dans les embouteillages quelque part de sa vie. Il y a des embouteillages de sa vie, ça arrive. Et normalement, il était programmé en premier, mais là, on le programme à la fin. Excuse-nous, Roger Lucien, mais c'est comme ça.
Ça veut dire qu'il vient de téléphoner.
Il vient de téléphoner ?
Ouais, il s'excuse. Il y a un petit peu de retard.
Il y a intérêt à s'excuser parce que nous, on rigole pas aux entonnoirs. Hein.
Non.
Donc, on le maintient donc pour terminer l'émission avec une musique de Roger Lucien.
Les entonnoirs.
Donc, nous allons démarrer l'interview aujourd'hui avec monsieur Nicolas Clauss. Donc, je laisse Bruno démarrer.
Je démarre tout de suite en trombe, mais calmement quand même, quoi. Avec le sourire, bienvenue tout d'abord aux entonnoirs. Ça fait toujours plaisir de recevoir des gens aux entonnoirs, quoi. Parce que notre devise, c'est plus on est fou, plus on rit, tout simplement, voilà, quoi. C'est tout con, mais c'est notre devise.
Je vais essayer d'être assez fou, voilà.
Bah oui, oui, mais fou sérieux.
C'est pas gagné. Hein.
Oui, non, mais voilà, quoi. Et donc, tout d'abord, il s'agit de se présenter, voilà, en quelques mots, votre itinéraire, quoi.
Alors, en quelques mots, donc Nicolas Clauss, 43 ans, artiste, plasticien, qui utilise les nouvelles technologies aujourd'hui pour faire des œuvres. Voilà.
Votre région d'origine ?
Alors, ma région d'origine, c'est la région parisienne, les Yvelines. J'habite aujourd'hui à Marseille. Et voilà.
Vous n'avez pas trop l'accent, pourtant ?
Ça fait 4 ou 5 mois que j'y habite, alors j'ai pas encore eu le temps de le cultiver.
Ça explique tout alors.
On va tout de suite passer donc aux questions, puis il y a des questions qui viendront improviser par rapport à l'interview.
Alors, pourquoi ce passage, vous faisiez de la peinture antérieurement, et je voudrais savoir pourquoi vous avez arrêté la peinture pour vous mettre au multimédia et l'informatique.
Oui, alors j'ai fait de la peinture pendant une douzaine d'années, et puis...
Des expositions
Oui, des expositions. Enfin, voilà, j'étais peintre. Et puis, vers l'an 2000 à peu près, je commençais à trouver des limites. Voilà. J'ai l'impression de ne pas faire des choses très, très originales ou de ne pas aller assez loin. Et donc l'idée, l'intuition, qu'en utilisant des outils nouveaux, peut-être qu'il y aurait moins de références et plus de liberté pour défricher des espaces encore relativement vierges.
Ouais. Alors, par l'informatique, ça coûte de l'argent aussi. Enfin,
Ça coûte de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, la peinture, ça coûte très cher aussi.
Merci.
Jérôme.
Bonjour Nicolas.
C'est bien ça, Jérôme.
Jérôme. En fait, j'ai fait les Beaux-Arts et j'en vis pas, quoi. J'ai fait 50 Beaux-Arts. Mais c'est mieux ainsi. L'art coûte plus qu'il ne rapporte, je crois. Et je sais plus ce que j'allais dire, mais c'était important. Oui, voilà. Peut-être avez-vous mis en suspens la peinture, parce que j'avais une prof à l'ERCEP de Tourcoing, qui disait la peinture c'est terminé, tout a été fait. Je suis pas d'accord.
Bah, je pense que c'est, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de limite, à chaque œuvre, oui, mais de la même façon.
Mais on a fait on a classifié, alors, cubisme, on a.
Oui. Enfin. Je pourrais juste répondre en disant que non, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de raison que la peinture soit morte, puisque on pourrait aussi dire en littérature, on a tout écrit, je pense qu'on va pas arrêter d'écrire aujourd'hui.
Mais c'était une preuve de multimédia.
Des preuves de multimédia.
La prochaine question par rapport à ce qui est marqué au tableau que je ne vois pas vraiment, donc oui, Margot.
Oui. Donc, avez-vous totalement exclu la peinture, en fait, abandonné la peinture?
Alors, c'est une interview peinture, en fait, aujourd'hui.
Non, on va passer tout après à votre truc sur...
Enfin, j'ai arrêté complètement la peinture, exactement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté, maintenant j'ai les mains propres, j'ai plus la peinture sous les ongles, j'ai pas les mains qui sont la térébenthine, c'est super, et j'y touche plus. Ouais.
D'accord. Mais je vais pas sortir un jeu de mots, on vous appréciera quand même, même si vous avez des peintures de guerre, voilà.
Sympa.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'exposition de la condition publique?
Alors, on va essayer. Ça va pas être évident. Par où commencer? Donc, c'est une installation, on pourrait qualifier d'installation vidéo. Une installation qui est immersive, dans le sens où les spectateurs sont plongés dans l'obscurité, sont entourés de plein d'écrans de toute taille, de toute forme, et entourés de sons. Qui se déploie autour d'eux, qui tourne autour d'eux. Donc c'est une installation vidéo immersive.
Quels sont ces sons?
Alors, avant d'arriver au son, il va falloir que j'explique un tout petit peu le contexte.
Pardon.
Mais oui, je vais arriver au son fatalement. Donc le dispositif, c'est ça. C'est 30. Là, on a 30 écrans qui affichent des portraits. Et donc, ce sont des portraits de jeunes gens, des hommes, des jeunes hommes. Des adolescents, des jeunes hommes qui viennent des quartiers populaires. Plus précisément, ce sont des gens que je suis allé filmer dans ce que l'État appelle les zones urbaines sensibles. Donc des quartiers HLM, chauds, je sais pas, mais enfin des quartiers étiquetés par l'État en tant que étant sensibles. Dans ces quartiers, il y a aussi le quartier du Pile, par exemple, qui est pas vraiment un quartier HLM. Enfin, en tous les cas, c'est pas des structures verticales, mais il y a le quartier du Pile, le quartier des Trois Ponts pour Roubaix. Mais il y a aussi des portraits qui ont été faits à Marseille, dans les quartiers nord, en région parisienne, à Évry, aux Pyramides, à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, à Montreuil, dans différents quartiers. Et donc, il y a plusieurs centaines de portraits de jeunes gens qui viennent de ces quartiers. Et là, on en arrive au son. Et donc, face à tous ces portraits qui sont de la vidéo en noir et blanc, portraits au ralenti, portraits muets, les gens ne parlent pas. Ils se contentent de regarder la caméra qui les filme, donc le spectateur au final. D'abord avec des regards fermés, des visages fermés, des regards menaçants. Et puis d'un seul coup, ces visages, ces regards se transforment et glissent progressivement vers des fous rires, des éclats de rire. Ça, c'est l'image. Et au niveau du son, donc... Il y a à peu près 200 extraits radiophoniques ou télévisés du son qui parle des quartiers populaires, qui parle Donc ce sont les hommes politiques qui parlent, ce sont des chroniqueurs radio, télé, ce sont des sociologues, enfin c'est tout le discours médiatique disponible qui parle des quartiers populaires et de leurs habitants. Donc il y a des quartiers très violents, orduriers de nos politiques, et les quartiers, il y a des propos qui sont plus des propos de militants, qui connaissent un peu de quoi ils parlent. Enfin voilà, il y a tous les angles, et c'est, tout ça est mélangé dans une joyeuse.
Ouais, et donc il y a un montage vidéo, un montage sonore.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, parce qu'en fait.
Il faut coller, je suppose, l'image.
Non.
Le son à l'image, non. Ou vice versa.
Non, c'est pas collé, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, tout ça c'est géré par les ordinateurs. Bon là, je rentre dans la technique, je sais pas si c'est très intéressant, mais. Il y a l'aléatoire, voilà, il y a une partition, c'est écrit, les images jouent, les sons jouent, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de possibilités aléatoires. Et ce qui m'intéresse, c'est comment le hasard va coller, va faire se rencontrer un son, une image, un regard, deux phrases entre elles, comment elles vont donner un nouveau sens. Enfin voilà, c'est la rencontre des éléments aléatoires qui m'intéresse. Tout ça dans quelque chose de très écrit. Je parle beaucoup.
Oui. Florent, une question, après moi j'en aurai une.
Je voulais savoir, est-ce que l'informatique, c'est pas quelque part une solution de facilité? Parce que vous savez, quand on a besoin d'une calculatrice pour faire des opérations, c'est plus simple. Est-ce que l'informatique, c'est justement une solution de facilité ou pas?
Bah, j'en sais rien, mais en tous les cas, l'informatique, pour moi, c'est un outil, quoi. Voilà. C'est un outil. J'utilisais des pinceaux autrefois, aujourd'hui j'utilise des ordinateurs, c'est un outil. Donc c'est très pratique, tu vois.
Oui.
Notion. Est-ce que c'est la facilité? Ça, j'en sais rien.
Oui. Par rapport à ça, d'après ce que vous dites, c'est un peu flou dans ma tête. Excusez-moi. Dans le sens où est-ce que vous avez une vision éthique particulière faisant ça, ou c'est simplement un jeu en jonglant avec la réalité de sociale, politique, sociologique? Est-ce que j'étais clair dans ma question ou...
Non, je ne sais pas si elle a compris.
Oui. Bon, est-ce que vous avez fait ça dans une démarche avec une démarche éthique personnelle?
Éthique, ça veut dire politique?
Éthique, morale, philosophique,
Oui.
Ou citoyenne, voilà. Éthique citoyenne, je dirais.
D'accord.
Ou alors, avez-vous fait ça d'un point de vue strictement purement artistique, dans le sens jongler formellement avec votre environnement social, politique
Bah, je pense que les deux sont très intriqués, quoi. C'est difficile de séparer les choses. Quand on fait une œuvre, généralement, c'est qu'on a une nécessité à la faire, et il y a une motivation derrière, donc ça peut relever de l'obsession personnelle. Hein, on peut peindre, par exemple, si on parle de peinture, on peut peindre des émotions, des choses qui nous habitent. Tout à l'heure, vous parliez de fantasmes, des fantômes, on peut... voilà, moi ici, c'est une œuvre, effectivement, il y a une dimension sociale et politique assez forte. C'est avant tout une œuvre d'art, hein, c'est avant tout une œuvre plastique. Mais c'est vrai que les sujets, il s'agit de choses éminemment politiques, et évidemment ma motivation elle est aussi politique, mais elle est avant tout artistique. D'accord. Enfin, j'ai du mal à distinguer les deux. Je pense que c'est pas parce qu'on fait de l'art que ça ne doit pas être politique. Enfin, puis tout est politique.
Par rapport à ça, par rapport les rapports entre l'art et le politique, moi en tant que poète, pour rester entier, je suis citoyen en même temps. C'est mon avis, comme beaucoup de mes artistes. Il faut laisser libre chacun. Mais je considère, pour rester intègre dans mon art, le poétique doit diriger le politique. Qu'en pensez-vous?
Alors, je dirais oui, forcément, parce que forcément, ça dépend pour qui, mais en ce qui me concerne, le poétique, c'est le plus important. Enfin, l'artistique, le poétique. C'est vrai que mon travail, en général, est beaucoup plus, onirique ou... Enfin, une dimension poétique assez forte en général. Là, c'est peut-être moins visible, c'est assez frontal comme travail. Mais enfin, ça n'est en tout cas d'une nécessité, voilà. C'est un travail qui s'est imposé à moi, il fallait le faire.
Onirique, c'est le rêve.
Oui.
Et Nicolas, êtes-vous à la recherche d'un certain équilibre dans l'esthétique, ou un déséquilibre? Est-ce qu'il y a-t-il une esthétique, une volonté de... Des mots qui sont blâmés aux beaux-arts, mais que maintenant on réutilise, joli, beau, esthétique, quelque chose qui a de la gueule,
oui.
Plutôt qu'un truc un peu branlant, quoi.
Enfin, oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Francis a une question.
Salut Nicolas.
Salut et Francis.
Par exemple, tu crées un personnage, une image.
Oui.
Comment tu fais ?
Pour créer une image ?
Oui.
Ah ben, je peux prendre un appareil photo, je peux prendre une caméra, je peux scanner une matière, je sais pas, enfin il y a 12 000 façons de faire une image, je ne sais pas.
Ça veut dire que tu prends des photos des paysages ou n'importe quoi ?
Oui, ou n'importe quoi, oui. Je peux aussi récupérer, je fais aussi beaucoup ça dans...
Même des photos de la mer, par exemple.
Pourquoi pas, j'ai pas encore fait ça, mais si, tiens, j'ai un projet, j'ai filmé il y a pas longtemps des vagues avec une idée derrière la tête.
Ouais. Avec des mouettes, non ?
Il y avait pas de mouettes, mais on pourrait en rajouter.
Et en fait, vous avez jamais eu de vrais acteurs.
Des vrais acteurs.
Vraiment, jamais, c'est arrivé. Jamais.
Alors, acteurs au sens de la comédie, non, mais des gens que je filme et qui se mettent en scène pour être filmés, oui, tout le temps, oui. Si ce soit les danseurs, des danseurs, des gens dans la rue, comme c'est le cas pour ce projet, ou des gens qui se déguisent pour un projet précis, pour des prises de vue précises. Si, je travaille avec des gens qui sont filmés.
Comment s'est passée votre rencontre avec les Roubaisiens ?
Avec les Roubaisiens, ben écoutez, les premiers Roubaisiens que j'ai rencontrés, je pense que les gens de la condition publique. Enfin, les rencontres sont très bien passées. Vous parlez des rencontres par rapport à ce projet ?
Oui.
Les deux, les rencontres avec Roubaix, oui. Et par rapport à ce projet, voilà.
Écoutez, je vais pas vous refaire le coup, les gens du Nord sont chaleureux et tout ça, vous connaissez par cœur. Hein,
on aimait l'entendre quand même, ça vous dérange pas ?
Bon, bah alors je vais bien répéter, alors les gens du Nord sont très chaleureux.
merci.
Mais si.
Sinon les contacts en général, enfin pour les gens que j'ai filmés, sont très bien passés, il n'y a eu aucun problème, juste se présenter un petit peu, expliquer pourquoi on est là, et puis une fois qu'on a bien expliqué, on peut commencer à travailler.
Et Nicolas, arrivez-vous à vivre de votre art ?
Bah, tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez fait les beaux-arts, mais que vous n'arriviez pas à en vivre, j'avais envie de dire le contraire. J'ai jamais étudié, je suis autodidacte. Enfin, j'ai étudié la psychologie sociale. Ouais. Rien à voir, j'ai pas fait de beaux-arts, non. Et donc, j'arrive à en vivre, parce que c'est lié. C'est peut-être ça le truc, il ne faut pas aller aux beaux-arts.
Oui, une question par rapport à Roubaix. J'ai un trou, ouais. Mais...
Pourquoi Roubaix ?
Oui.
Pourquoi Roubaix ?
Oui.
Alors, je vais pas vous répondre pourquoi pas, ce serait trop facile. Hein. Non, Roubaix, ça s'est fait... Alors, bon, je vais expliquer, tiens, parce que je vois une photo sur le mur, je me demande si c'est pas Saïdou, du groupe Zep. C'est lui, hein. Voilà. Alors, en fait, bon, il y a deux choses. Et d'abord, je connaissais, enfin, professionnellement, parce qu'on travaille un peu dans le même réseau, Anne-Isabelle Vigneault, la condition publique. Donc, c'est moi qui suis venu la voir pour lui proposer ce projet. C'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans, hein, donc qui a déjà été que j'ai commencé ailleurs et pour le poursuivre ici. Donc il y avait cette raison d'Anne-Isabelle Vigneault, et puis il y avait Roubaix parce que je suis tombé il y a pas très longtemps sur un livre qui s'appelle Nique la France, Devoir d'insolence, avec un disque de Zep et des textes de Saïd Bouamama. Donc voilà, Saïd Bouamama, Zep, je me suis dit, tiens, il se passe des choses à Roubaix. Là. Et puis, donc depuis, j'ai vu Zep qui est venu jouer à Marseille il n'y a pas longtemps. Saïd Bouamama est venu voir l'exposition à Marseille, quand il y passait, fin de conférence. Enfin voilà, il y a des liens, j'ai l'impression qu'il se passait des choses à Roubaix dans ce sens-là, qu'il y avait un certain militantisme qui m'intéressait bien. Et voilà, donc c'est un peu les deux raisons. Et puis je voulais aussi, symboliquement, pour finir, par rapport à ce travail, mon idée, c'est d'avoir des portraits qui viennent un peu des quatre coins de la France. Et donc, ça m'intéressait bien de faire un axe comme ça, Roubaix, Marseille. Et puis là, maintenant, je cherche des lieux à l'est et à l'ouest. Et puis, j'aurai fini cette histoire.
Saviez-vous que Roubaix était la ville la plus pauvre de France ?
C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé, oui. On m'a dit aussi que ça a été une des villes les plus riches
il y a
bien longtemps.
Oui,
voilà.
Oui.
Oui, on m'a dit ça. Oui, c'est vrai que les quartiers que j'ai traversés là pour faire mes portraits, il y a effectivement, on sent une certaine misère sociale, c'est certain. Mais après, est-ce que c'est plus, que c'est moins qu'ailleurs ? Je ne sais pas. C'est un peu le lot de toutes ces zones dites sensibles. Enfin bon.
Et puis Roubaix aussi. Bon, c'est la ville la plus pauvre de France, mais encore il y a quelques années, c'était la ville la plus jeune de France aussi.
Ah oui.
Ça aussi, c'est donc et ça peu de gens le savaient et moi je me rendais compte parce que je voyais ces jeunes mis de côté, enfin vraiment marginalisés quoi, et notamment où il y a une forte immigration immigrée notamment en maghrébine, les jeunes issus d'immigration qui étaient à l'écart et on sentait la révolte quoi, c'était évident quoi, et donc c'est ça qui m'a touché à Roubaix aussi, qui m'a fait aussi écrire sur Roubaix quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez du PIL?
Le PIL? J'en pense pas grand chose. J'ai pas d'idée sur la question. Enfin, c'est, ce qui m'a surpris en arrivant ici, c'est que, j'avais tendance à penser que ces fameuses zones urbaines sensibles, c'était toutes les fameuses cités ghetto verticales. Et puis effectivement, le PIL, ça n'a rien à voir avec cet imaginaire-là, enfin, architecturalement. De la même façon qu'un autre quartier comme ça qui est classé ZUS, qui est le quartier de Noailles à Marseille, en plein cœur de ville, qui est un quartier extrêmement populaire.
Alors, je voulais vous demander quel est le message de cette exposition.
Ça rebondit un peu sur la question tout à l'heure entre le politique et le formel et l'artistique et tout ça. Donc. Bon, alors avant tout, c'est une œuvre. Donc le message, ça, il peut y avoir des, c'est plus des questions, voilà. C'est plus une œuvre qui questionne, plus qu'elle ne donne des réponses ou c'est pas. Moi, je suis pas là pour dire comment il faut penser, ce qu'il faut penser, ce qui est bien de penser ou mal de penser. Je suis juste, c'est juste une proposition qui.
Pour nous titiller et nous faire réfléchir sur.
Voilà, c'est créer. Enfin, cette histoire d'immersion, pour moi, c'est de. À un moment donné, de mettre un spectateur dans un contexte propice à la méditation, à la contemplation et à la réflexion, et à se poser les questions sur et moi, le spectateur, où j'en suis dans ces histoires-là. Qu'est-ce que c'est tout ce qu'on me raconte à la télé, à la radio? Qu'est-ce que c'est que ces jeunes? Qu'est-ce que c'est que ces quartiers? Je suis où moi par rapport à tout ça? C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est pas vraiment un message, parce qu'après les messages, j'aurais pas besoin de faire des œuvres. Pour le message, il est clair. Hein.
Eh bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates?
Bien sûr. Alors, donc tout ça, c'est une exposition plus globale qui s'appelle Un visage des visages, dans laquelle il y a deux propositions. Il y a la mienne qui s'appelle Terres arbitraires, et il y a le travail de Damaris Rich et Catherine Poncin qui s'appelle Eau d'un neuf voix, qui elle travaille sur des quartiers, sur le quartier du Pil. Ces 9 portraits sous toutes les formes, vidéos, sons, photos de 9 habitants du Pil. Voilà. Et les dates, ça commence, alors il y a un vernissage, je sais pas si ça s'annonce un vernissage, mais je l'annonce quand même. C'est le 19 à 18h30, donc jeudi. Et ensuite, c'est l'expo à partir de vendredi 20 jusqu'au 11 mars. Et je connais même la feuille par cœur, c'est du mardi au dimanche de 14h à 18h. Voilà.
Merci.
Écoutez,
merci à vous. Merci.
Écoutez, c'est gentil de. Que pensez-vous, avant de la question habituelle que l'on pose, d'un projet comme les Entonnoirs, le fait de nous avoir rencontrés, qu'en pensez-vous? Dites un brûle pour point ce que vous avez à dire.
Alors écoutez, je vais être très franc avec vous. Je ne sais pas très bien ce que c'est que les Entonnoirs. Voilà, on m'a propulsé, je suis arrivé, je pensais pas que c'était aujourd'hui, et je ne sais pas du tout.
Bon, on va vous expliquer vite fait.
Expliquez-moi.
Les Entonnoirs, c'est un projet au départ, thérapeutique, dans un sens de nouveaux soins. De type nouveau, parce qu'il n'y a pas que les cachets, quoi, comme médicament, le chimique comme soin, des nouveaux soins entre les soignants et les soignés, et des nouveaux soins par la prise de parole du malade, pour qu'il se sente mieux, pour qu'il retrouve sa citoyenneté, et pour qu'il explique que la maladie, malade, pas si malade que ça, quoi. Voilà, donc à partir de ça, on déstigmatise ce qu'on appelle la maladie mentale. Mm-hmm. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit pas? Mais on nous apprécie parce que justement, on est tout fou, dans le sens où on part dans tous les sens, et c'est ce qui fait notre charme. Voilà.
Écoutez, moi, tout ce qui va dans le sens de déstigmatiser, je vote pour. Hein. Mm-hmm. Donc je trouve ça éminemment sympathique. Nécessaire, plus que sympathique d'ailleurs.
Nicolas, en tout cas, merci.
Et vous êtes pour combien de temps dans le Nord? Pour combien de temps, là?
Et moi, je repars à la fin de la semaine. Je repars samedi. Mmh. Je retourne à Marseille. Et après, je repars en Haute-Marne. Voilà.
Ça vous a dépaysé, en fait, hein, le Nord.
Écoutez, je sais pas, il y a le ciel bleu depuis que je suis arrivé, alors je suis pas dépaysé.
En fait, oui. C'était comme en 1979, c'était la tournée des Clash. Pour London Calling.
C'est une transition.
Merci et bon séjour à Roubaix.
Merci beaucoup et bonne émission.
Merci à vous. Eh bien, nous allons continuer l'émission avec la spirale. Jérôme.
La spirale.
La spirale.
Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes. Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec François à la spirale. C'est-à-dire, c'est une double spirale. Il y a le disque à l'endroit et le disque à l'envers. Donc François, toi, t'as un morceau.
Moi, j'ai un morceau sur
vinyle.
Et moi,
j'ai un morceau. Et toi, c'est quoi?
C'est un morceau des Pogues.
Ouais. La pochette est pas mal. Le radeau de la méduse, c'est ça?
Ouais, c'est l'album Rome, Sodomy and the Last, qui date
Lâche,
de...
Lâche.
Ouais, qui date de 1986. Et le groupe est représenté en pleine débandade sur le radeau de la méduse, sur la pochette. C'est effectivement une belle image. Ouais.
On se passe lequel? Moi, personnellement, j'ai hésité entre Beach Boys et Queen, mais j'ai demandé ce matin, il y avait la majorité, je crois, qui a dit Queen.
À l'unanimité.
À compte paille.
À l'unanimité, voilà. C'est... Et je sais même plus de quel album c'est Fat Bottom Girls. C'est peut-être bien de jazz. En jazz, il y a l'album jazz. Tu veux qu'on passe Queen ou d'abord Pogues?
Commençons par Queen.
Par Queen, ok. Queen, c'est parti, attention.
Wow. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Been singing with my band, cross the water, across the land. I've seen every blue-eyed cruisie on the way. But their beauty and their style were kind of smooth after a while. Take me to their bloody ladies every time. Come on! Oh, won't you take me home? Oh,
Oh, my name is Jock Stewart. I'm a canny gun man. I'm a roving young fella right there. So easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. I have acres of land. So come fill up your glasses of brandy and wine. Whatever it costs, I will pay. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. Dog. And him I did shoot up down in the county Kildare. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. So come fill up your glasses of brandy and wine, whatever. Be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day.
Les entonnoirs.
Ben écoutez, je crois qu'on peut passer la... Vous avez quelque chose à dire par rapport à vos...
Non, j'ai déjà dit que c'était un morceau de 86, super. Que c'était les Pogues. Par contre, c'est le seul morceau où la voix est féminine sur l'album.
Ouais. Moi, je survis en Irlande au Moyen-Âge, j'étais bien. Enfin, voilà, quoi.
Combien d'albums ils ont fait les Pogues, tu le sais ou pas?
Je ne sais plus, j'ai eu...
Peut-être deux, trois, maximum.
Pas beaucoup.
Okay. Florent, tiens.
Donc on va passer à la suite, et la suite donc c'est les poèmes. Avant les poèmes de, on va commencer par Margot et ensuite moi. Mais avant j'ai une petite intervention à la fin de rôle humoristique j'espère, par rapport à ce que j'appellerais à ce qui fait l'équilibre de l'individu, de tout individu. L'équilibre parfait n'existe pas, ça va. Ce qui fait l'équilibre parfait c'est parce que justement s'il existe, c'est que on jongle avec notre déséquilibre. Je vais m'expliquer par exemple. Un exemple. On a besoin de se nourrir physiquement des aliments. Bon, on prend les aliments. Certains vont dans le sang et d'autres qu'on ne voulait pas, qui sont indésirables par le corps, on les défèque. Logique. Et il est pareil pour notre nourriture visuelle, psychique, par rapport à la réalité qu'on encaisse de la société. Il y a des trucs qu'on encaisse, qu'on désire ou qu'on désire pas, on les encaisse consciemment ou inconsciemment. Et ça va dans notre esprit. Et notre esprit, il y a aussi un coin poubelle. Ce qui alimente le fait qu'il y a une folie en nous. Qu'il y a l'aliénation. Qu'il y a des tas de conneries dans notre tête. Voilà. Et notamment, le monde des fantasmes. Qui peut être trouble. Tordu. Ou vraiment d'une beauté inouïe. Et c'est pour ça que je terminerai en saluant simplement et en disant merci et j'aime la grosse salope qui m'a fait fantasmer cette nuit. Voilà.
Oh.
C'est l'humour. Bah, c'est l'humour, voilà. C'est. Non, je voulais être choquant dans le sens où justement, je me suis rendu compte cette nuit que finalement, acceptons-nous, même dans nos coins poubelles, quoi. C'est tout. Quoi. Voilà, quoi. Oui, Flore Francis.
Le mot que t'as dit, ça va boucher un coin.
Non, mais je suis provocateur.
Ouais, mais dans les coins poubelles, c'est pas interdit de vider la poubelle, de recycler le plastique, recycler le métal. Les légumes et les trucs ménagers, ça va sur
compost.
Un tas de fumier. Avant, il y avait du fumier dans les campagnes. Et enfin bref.
Non mais j'apprécie ce que tu dis. J'apprécie beaucoup ce que tu dis, Jérôme, dans le sens où comment dire. C'est pour ça que j'ai sorti ça dans le sens. A priori, ça a l'air négatif, la merde que j'ai dans la tête. Mais j'ai réussi à l'écrire. Donc j'en fais quelque chose de positif. Tu comprends?
On va enchaîner sur les poèmes, oui.
Margot.
Et on fait place à Margot, honneur aux femmes.
Voilà,
Margot,
donc,
on t'écoute.
Voilà. Donc, l'amour est la plus belle chose de la vie. La naissance d'un enfant est une joie pour une femme qui devient une mère. La solitude est parfois pénible. Ça dépend les personnes. La chance, ça n'arrive, il faut être né sur une bonne étoile. Le regard des gens est parfois différent. Pourquoi tant de haine, de violence dans un monde incompris? C'est mon ressenti de femme et de mère.
Merci.
Merci. Moi, je vais vous relire un poème que j'ai déjà lu en novembre 2010, que je l'ai écrit le dimanche 14 novembre 2010. Pourquoi je le relis? Parce qu'à l'époque, je l'avais relu ici, alors qu'on avait reçu le représentant du ministère de la Culture qui s'appelait Monsieur Lacloche, rappelez-vous. Et par rapport à ça, à l'époque, j'avais appris la libération d'une grande dissidente birmane qui s'appelle Madame Aung San Suu Kyi. Et une bonne nouvelle, son pays, à mon avis, est bien parti pour retrouver les principes de ontologiques de la démocratie. Donc, et une autre grande nouvelle, elle parle très bien français, elle est très belle, et il paraîtrait qu'elle viendrait faire un tour en France. Donc, par rapport à ça, ma poésie lui offre le tapis rouge, j'ai pas de problème, bienvenue dans notre pays, quoi. Et pas pour ça, je terminerai, avant de rester mon poème, par un jeu de mots, avant mon poème, je laisserai la parole à Francis, en disant que si tu mens, tu vas en enfer. Vous connaissez cette expression, si tu mens, tu vas en enfer. On dit au gosse. Ouais. Et nous, oui. Et moi, je dirais donc, parce que vu l'atrocité qui se passe en Birmanie, je disais à une époque, si tu es birman, tu vas en enfer. Donc voilà, donc bah oui, parce qu'ils ont tellement connu l'enfer dans leur pays, quoi. C'était un humour cynique que je voulais faire, mais qui était réaliste. Et avant de lire mon poème, je vais lire après. Je passe la parole. Oui, d'accord. Je vais lire mon poème donc sur ces grandes dissidentes birmanes. Malgré la dictature, malgré 7 longues années en résidence surveillée, elle a vaincu en véritable héroïne de la liberté, avec sa beauté et sa finesse. Qui sont birmanes quand elle incarne magnifiquement le soulèvement pacifique de tout un peuple maudit. Malgré la crise, malgré toutes les exclusions, elle est également une icône, celle d'une femme mûre et équilibrée, phare féminin proche et lointain, dans nos rêves légitimes d'une France retrouvée. Elle qui est Aung San Suu Kyi, dissidente birmane qui inspire à mes dissidences roubaisiennes, un art précis et raffiné qui la loue, comme un remède parfait à ma condition frileuse et marginale de poète si généreux dans sa révolution et son idéal.
Bravo Bruno.
Tu avais quelque chose à dire, Flo?
Ça m'a touché le cœur.
Merci.
Bien, bah écoutez, nous allons continuer avec Florent, qui a une nouvelle rubrique à nous proposer aujourd'hui.
Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je vais vous parler d'une bande dessinée humoristique que je suis en train, sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, j'ai lu la plupart des dialogues. J'ai commencé à griffonner sur des feuilles comme ça, à créer des personnages qui sortent de l'ordinaire. Il y a toutes des apparences physiques qui leur est qui leur apporte un certain désavantage en fait. Le héros, il est blond, il est de couleur noire et des cheveux blonds, si vous voulez, tout comme ça. Et il faut se dire qu'en fait c'est une famille qui comporte de 5 membres en tout, et extérieurement il n'y a pas de personnages qui viennent se greffer à ces 5 là en fait. En fait il y a des quiproquos, des insultes, du verlan, tous les trucs comme ça. En fait il y a un chien qui parle, donc c'est un peu débile quoi. Ça sort, c'est un peu de la fiction, un peu de la, en même temps, un mélange de fiction, de rigolade quoi. Et en fait c'est, j'ai bien appuyé sur mon crayon pour montrer que c'était des gens qui ressemblaient à rien en fait. C'est là les connus. Et en fait bon, c'est pas un feuilleton, il s'agit pas d'un feuilleton, c'est juste une série d'épisodes qui, voilà, comme c'est une série, forcément il n'y a pas de lien entre chaque épisode en fait, de lien, de corrélation directe. Une question, Jérôme?
Ouais, t'as combien de pages ou combien de albums?
En fait, j'ai travaillé
attends,
sur la...
Attends, j'ai pas fini, t'as ouais. La question. C'est-à-dire, ça ressemble plutôt à quoi? À Mickey, à Lix, Tintin,
Disons que c'est...
C'est ça ressemble à qui? Il y a un personnage principal ou pas?
Il y a un personnage principal, okay. Oui.
C'est un gars bien.
C'est... Oui, plus ou moins, mais il est victime... du début du livre entre guillemets, parce que j'ai juste gratté quelques trucs sur une feuille. Et je compte peut-être les revendre à une association pour des gens qui en ont besoin.
Garde-la pour toi.
Mais non. Vous pouvez ne serait-ce qu'un euro ou je demande pas plus. Moi, tout ce qui est pécunier, ça m'attire pas quoi. Ça m'attire pas.
Le problème par rapport, si on commence à peine à créer, on pense combien ça va me rapporter doucement. Là, au départ, c'est un acte gratuit au départ. Pas oublié.
Mmh. Ouais, termine déjà ta BD.
Un artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Oui, mais si quand il commence à créer, ça m'a rapporté, c'est grave quand même. Quoi.
Voilà. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je trouve que, en plus, Florent, tu dis que tu t'intéresses pas à l'argent. Tu cracherais pas non plus dessus. Moi, quand je vois, je vais pas dire une toile, mais une œuvre, je suis content de me mettre, mettons, 50. 60 ou 70 euros dans la poche, mais en même temps ça fait mal parce que je vends un peu de mon âme. Ma peinture c'est moi, et je te dis il y a pas de l'art coûte plus qu'il ne rapporte, c'est tout, c'est comme ça. À part Michael Jackson, regarde Michael Jackson, la déchéance du mec, le mec qui se fait refaire complètement et puis qui est ridicule, voilà. En fait, il avait un café, mais il appréciait plus le café.
Je voulais finir en disant qu'il y avait des didascalies là-dedans, tu sais peut-être. Des didascalies, c'est en fait quand un petit bonhomme pense à un truc ou il parle dans son coin, il rumine et tout. En fait, c'est une didascalie, c'est hors dialogue en fait. Hein. Ça peut être un monologue, ça peut être un. Il y a un personnage qui est en train de penser, en fait, c'est ça.
D'accord, il y a des apartés, quoi.
Des apartés, voilà, c'est ça.
C'est une envie que tu avais depuis longtemps, Florent ?
Non, mais ça a germé dans mon esprit chez un collègue de la radio, donc dont je ne citerai pas le nom, qui va venir dans un bon mois, qui compte revenir ici au entonnoir dans un bon mois. Hein. Et je voulais dire aussi que c'est interdit aux adultes. Parce que il y a beaucoup de matures qui, comment dire, aiment pas les gros mots et les trucs comme ça, mais bon, les enfants aiment plus peut-être. Bon, il y a rien de violent là-dedans, mais c'est juste tout ce qui est grossier en fait, c'est juste ça.
Mais on aura quand même le droit de le lire.
Ah ben j'espère. Hein. Mais je dessine vraiment pas bien. Hein. Faudrait que je prenne des cours ou quoi. Mais je sens.
Et ben c'est ça qui est intéressant. Tu dis que tu sais pas dessiner, mais moi je serais curieux de voir.
Donc,
je te montrerai alors.
On va passer à la suite. La suite,
Blondie. Et la suite, c'est une musique. C'est Margot qui nous la propose.
Oui, donc c'est une chanson de. C'est Shakira qui va la chanter. Donc c'est une reprise de Jacques Brel. Je l'aime à mourir.
Oh, je l'aime bien ça.
Ayer solo fui un holgazán, y soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada, no quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre de este cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. No quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Bon ben j'ai rectifié, c'était pas une chanson de Jacques Brel, donc c'était une chanson de Francis Cabrel. Voilà.
Tous les deux des Brel.
Des Brel que j'apprécie beaucoup, d'accord. Et moi j'ai une copine. Oui oui. Et j'ai une copine qui est nourrice, donc elle est nourrice, elle s'occupe de jeunes enfants en bas âge, alors de, voilà, elle les allaite. Et elle aime cette chanson, mais dans une variante qui s'appelle Je l'aime à nourrir.
Très bien, très bien, très bien.
En chantonne-la. Chantonne-la.
Je chante très mal.
La 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 la.
Vous êtes témoin, il va me faire chanter, vous êtes témoin.
Alors, avant de passer à Francis, hein, je pense, pour son coup de gueule et son coup de pouce, et puis pour terminer avec Roger Lucien, j'ai juste deux secondes, une petite info sur une artiste chinoise que nous avions reçue il y a quelques mois, Fen Wang Feng, qui a exposé et qui expose toujours. Donc, si ça vous intéresse, elle expose toujours à Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 29 janvier. Donc, vous pouvez aller sur le site de Villeneuve-d'Ascq, sur la ferme d'en haut, et vous accédez au site très facilement. Voilà, c'était une information et on la salue.
Comment qu'on peut aller jusque là-bas?
Eh ben, pour aller à Villeneuve-d'Ascq, bah, en métro, hein. Facile.
Te débrouille.
Voilà, c'est faisable.
ben écoutez, on passe la parole. Ben Francis, on reste avec toi. Coup de pouce.
Merci, ma chère Blandine.
Tu commences par quoi? Le coup de pouce.
Ben, je vais commencer par la stèle Vatromé.
Donc c'est le coup de pouce.
Ouais, coup de pouce.
Voilà, on t'écoute.
Ça veut dire que pour le 21 et 22 janvier, là, si vous pouvez venir nombreux à la fête à la stèle Vatromé, ça sera bien pour les orchestres et l'exposition. Il y aura la musique et la joie.
Organisé par les Papillons Blancs.
Voilà. Ça fait tous les ans, ils m'ont envoyé un courrier et j'ai remercié à eux de tout mon cœur de m'envoyer un courrier à l'adresse où je suis. Mais mon numéro de téléphone, je peux pas le donner.
C'est quelle date?
C'est quoi?
Le 21 et le 22 janvier, de 13h à 2h.
C'est quoi les Papillons Blancs?
13h30 à 2h. Ça commence. Jusqu'à 18h.
Voilà, c'est la fête des vœux des papillons blancs.
Il y aura de la boisson, il y aura des gâteaux.
Et
ça, je peux pas dire. Il y aura la surprise en plein dedans. Hein. Mais je peux pas dire qu'est-ce que c'est la surprise.
Voilà, moi, en tous les cas, venez nombreux parce que c'est pour une bonne cause.
Moi, je sais qu'est-ce que c'est la surprise.
Hein. Voilà, on dit rien puisque c'est une surprise.
Ça reste une surprise.
Que si je le dis à Ahmed, il va être surpris aussi.
Donc, Francis, on va passer à ton coup de gueule.
Ouais. Ça veut dire que le coup de gueule, ça veut dire que quand je roule à vélo pour faire des virages, j'ai pas envie de me prendre un sac plongeon dans le canal. Y a pas de barrière, y a rien. Alors je demande à la ville de Roubaix, qui se remue le popotin, on appelle ça, en flamand, s'ils peuvent mettre des barrières partout, au point noir et tout partout, ça leur remuera les puces, voilà.
Écoutez, le message est donné à la mairie.
Ouais.
Hein.
Et si tu sais pas rouler à vélo, tu roules pas à vélo, hein.
Non, mais ils sont payés pour ça.
Voilà. Oui, non, puis, parce que je vais faire l'humour très noir dans le sens où je connais des gens qui dans les virages ont été déportés, ils ont fini très mal. Enfin, c'est...
Tu me fais le cœur, Bruno.
Très bien, on va terminer l'émission avec Roger Lucien qui va nous proposer encore une fois une très belle balade africaine. Roger Lucien.
Oui, on va dire. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'île de Madagascar qui s'est détachée du continent africain il y a plusieurs milliers d'années. Peut-être même plus, je ne sais pas exactement. Donc, nous allons écouter une chanteuse ou un chanteur, je crois que c'est une chanteuse, oui, une chanteuse malgache qui s'appelle Mamika et qui nous interprète... Non, pardon, je me suis trompé. Elle nous interprète Mamika et elle s'appelle Rajeri. Voilà.
Au revoir, chères auditrices. Au revoir.
Merci, au revoir. Et au revoir à la prochaine.
Ciao, à plus.
savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
Parce que c'est les entonnoirs, parce qu'il y a plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.